Bon, je voudrais dire une première chose, pour que les choses soient claires. Je ne suis pas un spécialiste d'Homère. J'oserais dire d'ailleurs qu'il n'y a pas de spécialiste d'Homère, mais j'exagère. Un spécialiste est quelqu'un qui a lu tout ce qui a été écrit et qui est au courant de ce qui continue à s'écrire pour l'instant sur Homère. La question se pose de savoir si à l'heure actuelle, un être vivant, ayant vécu plusieurs dizaines d'années, peut avoir avalé tout ce qui s'est écrit sur Homère, tellement c'est monstrueux. Et les spécialistes d'Homère sont de plus en plus eux-mêmes spécialisés. Il y a les gens qui connaissent les questions d'archéologie, les gens qui connaissent les questions de texte, les gens qui connaissent l'histoire de la civilisation et le rapport d'Homère à son époque, etc. Et on est presque obligé d'avoir choisi son domaine. Alors, en ce qui me concerne, je me suis surtout intéressé à la destinée d'Homère, si vous voulez, comment le texte d'Homère a été lu dans l'Antiquité, au Moyen-Âge et depuis. Bon, c'est évidemment quelque chose de monstrueux et je suis loin de savoir tout ce qu'on peut savoir là-dedans. Enfin, c'est plutôt là-dessus que j'aurai vaguement des lumières. Bon, je tiens à le dire, parce que je serais ravi que vous posiez des questions, mais je vous supplie de ne pas attendre que je vous donne immédiatement une réponse immédiate. D'autant qu'il y a un certain nombre de questions, comme vous le savez peut-être, qui n'ont toujours pas de réponse et qui n'en auront peut-être jamais. Zeus est qualifié de Europa. Qu'est-ce que ça veut dire? Europa. Les gens pensent que ça peut vouloir dire qu'il a une voix qui porte loin. Possible. D'autres vous disent que c'est quelqu'un qui voit très loin. On ne sait toujours pas. On ne saura probablement jamais. Il y a même des gens assez vicieux pour poser la question de savoir est-ce que Homère savait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Homère est quelqu'un qui a appris son métier, que le métier supposait qu'on connaisse des mots assez extraordinaires, de ces mots qui en imposent d'emblée, qu'on connaisse des bouts de verre qu'on pouvait arranger les uns avec les autres. Et il est possible que Homère ait connu des mots qu'il avait appris de ses maîtres sans trop savoir ce que ces mots voulaient dire. Il les employait parce qu'on les employait toujours. Par exemple, Hermès. Vous voyez qui est Hermès. Hermès, évidemment, est régulièrement appelé Argeifontes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça pourrait vouloir dire celui qui a tué Argos. Vous savez, Hermès était chargé de surveiller une des amantes de Zeus, se transformer en vache, et la vache en question avait été volée par Héra, donc la femme de Zeus, et confiée à un personnage qui avait des tas d'yeux et qui s'appelait Argos, Argus si vous préférez. Et Hermès a endormi Argus ou Argos et a pu comme ça libérer la vache Io. Aimé des mots croisés, qui était une amante de Zeus. C'est une histoire qui mènerait très loin. Alors, est-ce que Argeifontes veut dire qui a tué Argos? C'est possible, mais personne n'en mettrait sa main au feu. Personne parmi les spécialistes. Hein. J'insiste tout de suite, si vous voulez, il y a un certain nombre de questions, même simplement des questions de texte, qui sont encore non résolues et qui ne seront peut-être jamais résolues, sauf si, évidemment, on retrouve... comment ça s'appelle? Le computer.
L'enregistrement.
Non. C'est absurde que je confonde. Comment? L'ordinateur d'Homère, oui. Il n'avait peut-être pas d'ordinateur. S'il avait un ordinateur, si on le retrouve, on saura peut-être des choses. Bon, alors. On va imaginer une histoire. Quelqu'un vient écouter Bruno dire l'Odyssée. On imagine quelqu'un qui n'a jamais lu l'Odyssée en entier. Tout à fait possible. Le quelqu'un en question n'aura pas lu non plus le programme. où on annonce que les aventures de Télémaque sont passées à l'as. Alors le quelqu'un en question écoute Bruno, est ravi, sort de là dans l'enthousiasme, se précipite dans une librairie, achète l'Odyssée. Et commence à lire l'Odyssée. Mais j'ai été volé. J'ai été volé, enfin. Il y a dans l'Odyssée 100 pages qui racontent les aventures de Télémaque. Télémaque, conduit par Athéna, va faire un tour quelque part. Il va chez Nestor, à Pylos, il va à Sparte, il rencontre Ménélas. Il rencontre Hélène, et il en est encore tout bleu et tout ébaubi. Évidemment, il y a de quoi. Bon, tout ça, Bruno l'a pas dit. Alors, on a été volé. Je ne dis pas au hasard. Je ne dis pas au hasard. Je vous expliquerai pourquoi si vous voulez. Alors, je voulais vous raconter ça. Et puis,
la suite.
Au troisième vers de l'Odyssée, dite par Bruno, il y avait deux mots que j'attendais. Ils me sont passés sous le nez. Parce que j'ai été volé.
Quels étaient ces mots ?
Je vous les dirai après. Qu'est-ce qui se passe si la même histoire se produit il y a 3000 ans ? Un homme a entendu Homère dire l'Odyssée. On l'a prévenu, il faut aller écouter Homère dire l'Odyssée, c'est vraiment extraordinaire. Alors, ce brave, on l'appellera Nésicritos si vous voulez, enfin peu importe. Ce brave homme va écouter Homère. Il est enthousiaste. Il sort de là, il trouve un copain, il lui dit, voilà, j'ai entendu Homère. Ah oui, dit l'autre, là. T'as vu l'histoire de Télémaque ? Quel Télémaque ? Oh oui, ils l'ont nommé Télémaque. Enfin, ben non, mais l'histoire de Télémaque, c'est long. Est-ce que mon homme a l'impression d'être volé ? Voilà. Voilà la question que je voudrais poser. C'est une question qui est absurde, mais qui entraîne, je crois, un certain nombre de... qui implique un certain nombre d'autres questions beaucoup plus sérieuses. Première question... Bon, on va la poser par un détour, si vous voulez. Alors, vous êtes fan de Baudelaire. Vous savez par cœur... La vie antérieure, par exemple, vous la savez par cœur parce que vous l'avez apprise pour le plaisir, ou bien parce que vous êtes aussi fan de musique et qu'il y a une mélodie de Henri Duparc qui est absolument sublime, donc vous répétez régulièrement au lever du jour. C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes, au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs et des esclaves nus, tout imprégnés d'odeurs qui me rafraîchissaient le front avec des palmes, etc., etc. Bon, vous avez ça dans la tête, c'est solide, ça ne bouge pas. Et puis un beau jour, quelque part en Slovaquie, chez un bouquiniste, vous trouvez un livre, c'est Les Fleurs du Mal, vous feuilletez, ils s'ouvrent tout seul à cet endroit-là, et vous lisez, c'est là que j'ai vécu, dans les volupté calmes, au milieu de l'azur, des flots et des splendeurs. Des flots, il y a des vagues. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que cette édition ? Ça me paraît étrange. Vous vous demandez au bouquiniste en slovaque combien il vous vend ce bouquin ? Il vous dit 25 euros. Oh, non, non, c'est pas possible. Ça serait du vol. Je vais être volé. On va me donner une édition qui ne marche pas. Bon, on pourrait faire le même coup avec bien d'autres choses. Par exemple, le vers que prononce Oreste au début d'Andromaque. Je me livre en aveugle au destin qui m'entraîne. Et un jour, vous tombez sur une édition, je me livre en aveugle au transport qui m'entraîne. Et qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai été volé. Bon, vous êtes plus clair. Vous lisez, cette chose splendide qui s'appelle... Le confessionnal de pénitents noirs, Anne Radcliffe. Un horrible roman... terrifiant, écrit par une Anglaise un peu folle au tout début du 19e siècle. C'était le genre de roman que André Breton et les surréalistes adoraient. Vous lisez ça dans l'édition... Je vais me faire des ennemis, hein, je vous préviens tout de suite. Vous lisez ça dans l'édition republiée par Robert Laffont, dans la collection Bouquins, vous savez, ces gros livres qui sont bien collés, qui ne se décollent pas. Ça s'appelle Roman terrifiant. Il y a là-dedans l'italien ou le confessionnal des pénitents noirs. Vous lisez, vous trouvez ça bien, ça vous plaît. Puis un jour, vous avez l'idée loufoque de le lire en anglais, pour voir. L'édition Laffont est une catastrophe, mais il en manque un bon quart. Ça se lit bien, mais quand même, il y a des coupures absolument monstrueuses. Et ça n'est dit nulle part. Bon. Tout ce qui est dit, c'est que l'édition en question a repris une édition du 19e siècle, et c'est vrai qu'au 19e siècle, on était un peu moins regardant qu'aujourd'hui. Enfin, vous avez l'impression d'être volé. Hein ? Vous aurez peut-être aussi l'impression d'être volé, si jamais vous avez l'idée loufoque, d'aller lire Les Frères Karamazov de Dostoïevski dans la première traduction française. Il y a de temps à autre des escrocs pour republier cette traduction. Sous prétexte que le traducteur a un nom russe, donc il doit être sérieux. Alors là, non seulement il y a des coupures, mais alors, à la louche, hein, il en manque des centaines de pages. Mais le traducteur, il s'est mis à deux pour faire ça, avec quelqu'un qui ne savait pas le russe, mais le traducteur a ajouté à la fin une conclusion de son cru. Les Karamazov, ça se termine plutôt mal. Eh bien, dans la version Alperin Kaminski, ça se termine bien, on se croirait à Hollywood. Vous auriez l'impression d'être volé si vous découvriez cette supercherie. Bon, alors ce que j'ai voulu rappeler simplement, c'est que la question du vrai texte, elle peut se poser à travers la variante, un mot pour un autre, hein, transport pour destin. Elle peut se poser à partir de la coupure. On vous donne un texte qui n'est pas complet, il en manque la moitié, enfin un peu. Elle peut se poser aussi, c'est moins fréquent aujourd'hui, mais c'est pas encore imaginé, elle peut se poser à partir d'un ajout. L'éditeur a demandé à quelqu'un de rédiger un certain nombre de pages, ou le traducteur a de son propre chef inventé quelques pages. Voilà, ça c'est la question de la vérité du texte. Alors, j'ai pris des exemples dans la littérature contemporaine, donc dans la littérature l'époque moderne et la littérature imprimée. Et les énigmes que je vous ai posées, là, sont des énigmes parfaitement solubles. Des flots et des splendeurs au lieu de des vagues des splendeurs, c'est la première édition des Fleurs du Mal. Baudelaire, ensuite, a éprouvé le besoin de changer son texte. Voilà. Donc, vous savez très bien ce qu'il en est. Soit dit entre parenthèses, si on prétendait vous vendre la première édition du Fleurs du Mal pour 25 euros, vous auriez dû sauter dessus, parce que ça vaut bien davantage. Enfin, ça, c'est une autre affaire. Bon, le destin de d'Oreste, là aussi, Racine a changé son texte. La première version comportait, celle qui a été jouée en 1767, c'était « Je me livre en aveugle au transport qui m'entraîne ». Et après, Racine a modifié son texte, il y a eu plusieurs éditions, et il a choisi le mot « destin ». On arrive à comprendre, quand on connaît bien la question, mes bons collègues a écrit des choses tout à fait superbes sur ce que ça peut vouloir dire. Racine voulait donner l'idée que sa tragédie, c'était la même chose que la tragédie grecque, et il avait tout un discours, comme ses contemporains, sur la place du destin dans la tragédie grecque. Nous en reparlerons une autre fois. Bon, quel est le vrai texte d'Homère ? Voilà, c'est bien là qu'il fallait en arriver. Hein. Quel est le vrai texte d'Homère ? Est-ce qu'il y a un vrai texte d'Homère ? Comment connaître le vrai texte d'Homère ? Je veux dire tout de suite que la question se pose depuis très longtemps, et je vais donner quelques précisions là-dessus. Est-ce qu'il y a une époque où la question se posait autrement ? Nous nous posons la question à partir de ce qu'est le livre dont nous avons l'habitude, c'est-à-dire le livre imprimé et conservé dans des établissements vénérables. Comment posait-on la question à l'époque d'Homère ? Est-ce qu'on pouvait se demander s'il y avait un vrai texte ? Est-ce qu'on pouvait dire « j'ai été volé parce qu'il ne m'a pas parlé de Télémaque » ? La question est celle-ci. Comment se représenter ce que certains de nos frères humains d'une autre époque, vivant dans d'autres circonstances, avaient dans la tête. et comment arriver à tenir compte de ce qu'ils avaient dans la tête et dont nous n'avons, nous, plus l'habitude. Comment arriver à connaître l'esprit d'une autre époque. Il ne s'agit pas seulement de la connaître intellectuellement, il s'agit de se donner les réactions des gens pour qui ce texte a été composé. Parce qu'il n'a pas été composé pour nous, le disciple. Elle n'a pas été composée pour nous, le disciple. Peut-on arriver à, non pas seulement en muséographe intellectuellement, mais du bout des doigts et du fond du cœur, s'apprivoiser à ce texte. Πολλον ανθρώπων ειδην αστεία καί νοον εγνό. Je recommence. Πολλον ανθρώπων ειδην αστεία καί νοον εγνό. Le plus important, c'est la fin. Καί νοον εγνό. Bon, c'est le troisième verbe, je disais. J'essaye de le dire comme je peux, comme me l'a appris mon jeune collègue Philippe Brunet, qui est un des grands maîtres en la matière, qui lui dit le texte en grec, et qui m'a un peu appris des choses. Vous avez entendu anthropone. Polon d'anthropone. Anthropone, les hommes. De beaucoup d'hommes, il a vu les villes, et il a, alors littéralement, il a connu l'esprit. Non, hein, comme dans la noosphère de Théière de Chardin, comme dans ce site qui s'appelle, je ne sais plus ce que c'est, qui s'appelle Noos. Hein, c'est pas un truc américain, c'est du grec, Noos, et ça veut dire l'esprit. Il a connu l'esprit des hommes. Hein. Ce sont les deux mots que Bérard avait gardés, et que pour des raisons tout à fait acceptable, parce qu'il est question d'Homère, tout à l'heure Bruno a avalé. Il a connu l'esprit de beaucoup d'hommes. Et c'est ça l'histoire d'Ulysse. Et c'est ça l'histoire d'Homère. C'est un voyage à travers des civilisations où des gens pensent de manière différente. Alors évidemment, ça se joue, on va en parler demain bien sûr bien davantage, ça se joue entre les brutes, les gens qui sont à peine civilisés. Ils sont pourtant déjà un tout petit peu civilisés, les cyclopes, puisqu'ils pratiquent l'élevage. Ils n'en sont plus à la cueillette. Hein. Mais enfin, ce sont quand même des brutes, et le cyclope auquel Ulysse a affaire, Polyphème, est une brute particulièrement incapable de comprendre la vie en société, et ça se passe donc entre les cyclopes et, à l'autre bout, les Phéaciens, qui sont un pays tout à fait merveilleux, un pays où la société fonctionne de manière superbe, et ils sont caractérisés, tu as prononcé le mot tout à l'heure, ils sont caractérisés par que ce sont des passeurs, ce sont des gens qui font voyager, ce sont des maîtres de la communication, des gens pour qui l'humanité existe en tant qu'humanité. Mais ce qui est extraordinaire dans la phrase d'Homère, c'est que Ulysse n'a pas connu seulement la fleur de la civilisation, mais toutes les civilisations, tous les degrés de civilisation. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, on le verra plus tard, les Phéaciens sont presque impossibles. Et ça, c'est une autre.
Les Phéaciens sont
impossibles. Mais tu vas dire des choses.
J'ai eu un tout petit trou quand Kénélos parle, il dit c'est Zeus qui nous l'amène et qui nous recommande de respecter les suppliants.
Ah oui, bien sûr.
J'ai oublié de.
Ah oui, non, mais ça effectivement, ça c'est ça pour Homère, clairement. Le respect de l'étranger, le respect de l'hôte, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Vous savez, bon. Alors c'est la question qui se pose, bien entendu. Maintenant, je vais revenir donc à cette question de savoir quel est le vrai texte d'Homère et comment on a pensé les choses au cours des siècles. Alors, je vais vous proposer une espèce de petite chronologie Et cette chronologie, je vais la commencer d'une manière un peu bizarre. Disons vers 450 avant Jésus-Christ, à peu près. C'est-à-dire à un moment où la ville d'Athènes, la cité d'Athènes, est un grand centre intellectuel, qu'elle restera très longtemps. C'est aussi une ville extrêmement puissante. C'est le moment peut-être où Athènes était particulièrement puissant, particulièrement riche. À cette époque-là, bon, c'est l'époque où on a construit le Parthénon. Tout ce 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est l'époque où se jouent tous les ans de ces textes extraordinaires qui sont les tragédies grecques, et que donc il nous reste 30 textes que nous pouvons toujours lire et qui sont régulièrement joués, tournés en film, etc., etc. La grande époque. À cette époque-là, vit un individu qui n'est pas d'Athènes, mais qui y met les pieds assez souvent. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. C'est une espèce de nouvelle Ulysse, quelqu'un qui a connu les villes de beaucoup d'hommes et qui a kainon egno, qui a connu leur esprit. Il s'appelle Hérodote. Il vient d'Halicarnasse. Halicarnasse, c'est une ville qui se trouve dans l'actuelle Turquie. Je viens de prononcer. Tout le littoral de la mer Égée, depuis Byzance, bien entendu, jusqu'à Rhodes, est évidemment un pays grec, depuis des siècles et des siècles. En 1923, les Turcs ont mis tous les Grecs dehors. Ce sont des choses qui ne se pardonnent pas facilement. Bien. À cette époque-là, donc, Halicarnasse était grec et Hérodote était venu à Athènes. Hérodote a écrit un livre qui s'appelle « Enquête ». Enquête en grec, dans le grec de cette époque-là, ça se disait « historia ». Hérodote, nous le considérons comme le premier historien. Alors pourquoi je vous cite Hérodote ? Je vous cite Hérodote parce que, quelque part, il dit « Il me semble que Homère et Hésiode, je vous dis à qui est Hésiode, Homère et Hésiode ont vécu il y a 400 ans. Vous pouvez trouver ça dans Hérodote. C'est bien Hérodote, hein. C'est drôle comme tout, puis astucieux. Je tiens à citer une source ancienne. Donc vous trouvez ça dans Hérodote, quelque part dans le... Alors si vous ne le trouvez pas, c'est que vous avez été volé. Donc vous trouvez ça, et vous vous dites, 450 à peu près, plus 400, remontant en arrière, ça nous met Homère vers 850. Bon. Un cheval près 800, ça suffira. J'insiste là-dessus, et vous allez voir pourquoi. Il y a à Athènes, un peu plus tard, mais toujours dans le même siècle, un autre écrivain qui s'appelle Thucydide, qui écrit aussi une histoire, et qui, au début de son histoire, vous dit ce que je vais vous raconter, la guerre dont je vais vous parler, est plus importante que la guerre de Troie. Et il a le sentiment qu'en disant ça, il dit quelque chose d'énorme. Parce que le grec, la guerre de Troie, c'est évidemment, celle à laquelle Homère se réfère toujours, c'est évidemment la guerre des guerres, la plus extraordinaire des guerres qu'on puisse imaginer. Il ne peut pas y avoir de guerre plus grave que la guerre de Troie. Eh bien, Thucydide dit, la guerre qui vient de se livrer entre Athènes et Sparte, guerre interne au monde grec, est probablement plus importante à tous égards que la guerre de Troie. Je vous dis ça pour que vous ayez dans l'idée que Thucydide est quelqu'un qui, éventuellement, prend en écharpe les idées reçues. Il ose dire à des gens qui sont persuadés qu'il n'y a pas plus grand que la guerre de Troie, que non, il y a plus grand que la guerre de Troie. Non, il met en doute une idée que tout le monde avait dans la tête. Mais, un peu avant, il dit, Homère, qui a vécu assez longtemps après la guerre de Troie, et là, il le dit comme si tout le monde était d'accord. J'insiste là-dessus, ces deux sources que je donne, donc des Grecs vivants au 5e siècle avant Jésus-Christ, ces deux sources sont fiables. C'est très important. Parce que il y a eu une époque, elle a un peu passé, heureusement, mais il y a eu une époque où on avait tendance à considérer que, comme il y a des erreurs qui vagabondent, qui se promènent depuis très longtemps, tout témoignage antique était par définition discutable. À l'époque de ce qu'on appelait l'hypercritique, il ne pouvait dire que des choses fausses. Eh bien, aujourd'hui, on admet, il n'y a pas de problème, que Hérodote, sur ce point-là, a probablement raison à 100 ans près. Enfin, on ne sait pas exactement, et que Thucydide a probablement raison. Alors, les Grecs, par-dessus le marché, peu importe lesquels, avaient considéré, je ne sais pas très bien comment, que la guerre de Troie avait dû se produire vers 1200 avant Jésus-Christ, hein, donc... 700 ans avant l'époque à laquelle je me place, c'est la construction du Parthénon. Hein, pour les lecteurs du Parthénon, pour Socrate, si vous voulez, la guerre de Troie, c'est ce qui est pour nous la guerre de 100 ans, hein, cheval près. Bon, alors, vous faites le calcul. Homère, évidemment, vivant et composant 300 ou 400 ans après la guerre de Troie. Je crois que ça colle à peu près. Bien. Témoignages qui sont relativement acceptés. Autre témoignage, postérieur, très postérieur, c'est un auteur latin, mais peu importe, ça a l'air de rendre compte de ce que tous les gens pensaient à cette époque-là. Il existe un texte d'Homère depuis le VIe siècle. C'est au VIe siècle, donc l'an 500 et quelque chose, que le maître d'Athènes, le tyran d'Athènes. Tyran, ça veut dire dictateur. Ça veut dire qu'il a pris le pouvoir sans demander l'avis de personne. Bon, le tyran d'Athènes, qui était par ailleurs protecteur des arts, a fait mettre par écrit le texte de d'Homère. Il est probable que dans d'autres villes, d'autres gens ont pris la même décision et que ces textes qui étaient récités... peut-être en entier, peut-être par petits morceaux, ces textes ont été notés avec peut-être des variantes, des différences d'une ville à l'autre. Bon, je passe quelques années et je me retrouve, disons, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Entre-temps, il s'est passé quelque chose de très important. Alexandre a conquis le monde, c'est-à-dire qu'il a mis dans tous les pays, dans toutes les grandes villes de la Méditerranée orientale, il a mis des garnisons grecques pour que on ramasse les impôts. Alexandre est mort, son empire a été coupé en petits morceaux, ses généraux s'en sont emparés, mais enfin, il y avait partout, en Syrie, dans ce qui est en Asie mineure, en Égypte, il y avait des souverains grecs, et le grec était la langue courante la langue de culture, si vous voulez, de tous ces pays-là. Pourquoi d'ailleurs un certain nombre de juifs qui étaient émigrés en Alexandrie ont traduit la Bible en grec, parce que il fallait bien les faire connaître aux gentils, et puis parce que surtout un certain nombre de leurs compatriotes ne comprenaient plus très bien l'hébreu. Ça, c'est une autre affaire. Bien, Alexandrie, j'ai nommé Alexandrie, qui s'appelle donc du nom d'Alexandre, la ville a été fondée par Alexandre, et comme vous savez, à Alexandre, il y avait une bibliothèque. Et le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, qui est un grand savant, enfin, les directeurs successifs de la bibliothèque d'Alexandrie, qui étaient des grands savants, se sont battus avec cette question, quel est le vrai texte d'Homère ? Et alors, ils ont ramassé les manuscrits qui traînaient, ils les ont comparés entre eux, ils ont réfléchi, ce sont des gens extrêmement savants. Leurs raisonnements ne sont pas toujours tout à fait convaincants, mais enfin, ça tant pis pour nous. Bon, par exemple, Aristarque, le plus grand, je me flatte d'être de ses collègues. Aristarque vous déclare que ce que vous avez entendu tout à l'heure, l'histoire d'Arès et d'Aphrodite pris au piège par Héphaïstos, ça n'est évidemment pas d'Homère. Parce qu'Homère était un homme décent, quand même, convenable, il n'allait pas raconter des gaudrioles pareilles. Bon, ça c'est tant pis pour Aristarque. Vous savez, ça s'est refait régulièrement. Il y a des savants anglais au XIXe siècle. Avec un cravate jusqu'au col qui déclarait que telle scène de Shakespeare ne pouvait pas être de Shakespeare parce que c'était indécent. Le monologue du portier dans Macbeth, par exemple. Bon, alors, ça c'est une plaisanterie, parce qu'il y a des choses beaucoup plus sérieuses, et effectivement, Le texte que nous lisons maintenant, c'est un texte qui a été, comme on dit, établi à cette époque-là, à l'époque alexandrine, à la fin de l'Antiquité. Bien, je saute un certain nombre de siècles pour une raison très simple.
L'Antiquité, c'est le deuxième siècle après.
Non, ils ont continué à travailler, mais enfin, l'essentiel du travail s'est fait effectivement juste à la fin de l'ère ancienne. Enfin, à l'époque romaine, le texte était pratiquement établi. Bon. Je saute l'Occident médiéval, fort peu connu, connaissait Homère, bien entendu, connaissait les histoires, bien entendu, mais on y lisait fort peu le grec. Le nom de Boccace vous dit quelque chose, hein? Le Décaméron, etc. Et Boccace, ayant écrit le Décaméron, a continué à travailler. C'était un homme qui aimait beaucoup dire les choses. Il est tombé sur un vieux moine qui vivait en Calabre, qui était un peu damné. Moine, il a appris le grec. Et Boccace a déchiffré l'Iliade et l'Odyssée en grec. Il était retourné, bouleversé. Il a écrit un grand livre sur les dieux des anciens. Et à un moment, il parle de cette histoire. Et il dit, moi le premier, ego primus, dans ce pays, j'ai dit, il y a le lycée. Bon, ça nous met au XIVe siècle. On continue. Allons très vite. À la fin du XVIIIe siècle, se passe quelque chose de tout à fait essentiel. Un brave homme, dont le nom n'est pas passé à la postérité, c'est comment il s'appelle, Villoison, il s'appelle. Travaillait à Venise dans une bibliothèque avec un des plus anciens manuscrits d'Homère. Il ne faut pas se faire d'illusions, les plus anciens manuscrits que nous possédons sont des copies. Les plus anciens datent du Xe siècle après Jésus-Christ. Ils ont 10 siècles aujourd'hui. Ils ont été copiés sur des manuscrits antérieurs, enfin on a recopié pendant des siècles et des siècles. Vive les moines. Du travail de moine, copier les manuscrits. Donc, Villoison travaillait sur un manuscrit qui est tout à fait précieux parce qu'il a des notes, des scolies, comme on dit, et des notes extrêmement abondantes à travers lesquelles on peut avoir une idée du travail du directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, des directeurs successifs de la bibliothèque d'Alexandrie. Il les cite, il y fait allusion. À travers donc ces notes, on peut avoir une idée. Ce qu'on n'avait pas à ce moment-là, on ne faisait pas attention, de l'histoire du texte. Et c'est là-dessus que un certain Friedrich Wolff écrit les prolégomènes à Homère. Un texte illisible, qui n'a, à ma connaissance, jamais été édité. Il y a une traduction anglaise depuis quelque temps. Et vous pouvez trouver une traduction fragmentaire en allemand sur Internet. Il n'y a pas de traduction en français. Un texte qui fait naître ce qu'on appelle la question homérique. Alors, Wolff a travaillé, d'après le travail de Villoison, et a essayé d'écrire une histoire du texte. Il a essayé d'écrire une préface pour une édition d'Homère. Hein, si on veut essayer d'établir le vrai texte d'Homère, comment faut-il s'y prendre? Alors c'est lui qui a insisté sur le fait que, il s'est peut-être trompé, mais peu importe, il y a peu de chances que Homère ait su écrire. On travaille évidemment à partir d'un texte qui a été noté probablement 200 ans après l'existence d'Homère, et puis un texte qui a été retravaillé dans des conditions qu'il décrit avec beaucoup de précision. Alors à partir de ce livre de Wolff, les prolégomènes, on a déduit des choses absolument absurdes. On a déduit qu'Homère n'existait pas. Bon, il y avait des gens qui avaient dit ça, effectivement, avant que j'étais... À mon avis, c'était des plaisantins. Hein. Vous ne vous laissez pas faire par l'abbé d'Aubignac, et qui est un fumiste, et par Perrault, qui a écrit l'abbé au Bois dormant, qui a bien raison, et qui a aussi écrit des choses sur Homère qui ne tiennent pas debout. Bon, de toute façon, c'était une toute petite chose, parce qu'à cette époque-là, à l'époque de Perrault ou de l'abbé d'Aubignac, la question n'était pas mûre. À l'époque où Wolff a écrit, on était extrêmement intéressés par une pratique de la poésie qui n'était pas la pratique écrite.
Si bien que, lisant Wolf, à mon avis de travers, mais peu importe, un certain nombre de gens ont dit l'Iliade et l'Odyssée ne sont pas des œuvres écrites par un poète qui domine sa matière, ce sont des patchworks, ils emploient pas le mot, peu importe, ce sont des juxtapositions, des mosaïques faites à partir de petits bouts de texte qui existaient dans la mémoire des braves gens et qui sont nés indépendamment les uns des autres. On avait pour ça, il faut le dire à l'époque, et on a toujours, un modèle qui intéressait beaucoup de gens. C'était l'époque où on redécouvrait ce que les Espagnols instruits voulaient publier, c'est-à-dire le roman. Je dis bien le romance, pas la romance. Alors, un certain nombre d'entre vous ont entendu ici Marie Thomas dire des romances espagnoles. Bon, je ne sais pas si vous regardez le même souvenir que moi. Et romance, c'est des petits textes. 10 vers, 20 vers, 30 vers, parfois un peu davantage, qui vous racontent des épisodes d'histoire, en général d'histoire connue. À l'époque dont je vous parle, fin 18e, un journaliste français, un journal français, a publié une collection de romances sur le Cid. Le Cid, celui quand même, est un personnage réel, bien entendu. C'était Charles Weston, autrefois. C'est bien lui, c'était le Cid. Bien, et Sophia Loren était Chimène. Et donc, une collection de romances. Un Allemand, type extrêmement intelligent et curieux de toute chose, un certain Herder, écrit avec un H, H-E-R-D-E-R, qui a fait un recueil de chansons populaires de tous les pays, qu'il a traduit en allemand de manière astucieuse. Herder, à la fin de son existence, a fait une épopée du Cid en traduisant et en mettant bout à bout un certain nombre de romances, de petites romances qui parlent du Cid. Donc, si vous voulez, à cette époque-là, l'idée qu'on puisse faire une épopée en raboutant des textes indépendants les uns des autres, ce n'était pas une idée absurde. La même chose, d'ailleurs, s'était produite, comme vous savez peut-être, en Finlande, où le docteur Lundroth a, de la même manière, utilisé des chants que les braves gens chantaient dans les cabanes des villages de Finlande, et il les a mis bout à bout pour faire cette épopée qui s'appelle le Kalevala. Alors, on a pensé que, il y a déjà eu des gens pour penser que Homer avait pu hésiter de la même manière, on aurait inventé un Homer en mettant bout à bout des petits textes. Bon, ça c'est la version extrême de la question, mais je vois qu'à l'heure actuelle personne n'y croit plus, et nous avons d'excellentes raisons pour ça. Seconde version, l'idée que Homer a pu exister, mais que son texte a été extraordinairement transformé. Alors ça, c'est la suite du travail des directeurs du musée d'Alexandrie. On lit...
De la bibliothèque,
pardon. Mais c'est pareil. On lit le texte d'Homère, tel qu'il nous a été donné par la tradition écrite, j'ai dit. Et puis on dit, ça peut pas être de lui, ça c'est pas lui, ça c'est pas lui, ça c'est pas lui, ça c'est pas... Et on coupe. Alors, dans beaucoup d'éditions de l'Odyssée, par exemple, de Gérard, vous trouverez ou bien des passages entre crochets, voire des passages en notes, avec le numéro des vers. Mais on vous dit ça a été rajouté après. Alors, on a toutes les raisons. On peut inventer ce qu'on veut. Il y a des gens qui ont dit qu'effectivement, l'histoire
c'est
de Thomas
Mann... On a dit par la télémaquie, et c'est pas d'Homère.
Ça a été rajouté. Oui, avec cette chose étonnante d'ailleurs, qui est que si ça a été rajouté, c'est que ça n'est pas d'Homère. Or, pourtant, Aristarque, mon bon collègue Aristarque, ton directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, aurait dit quelque part, alors ça c'est pas l'Odyssée, c'est l'Iliade, le chant 10 de l'Iliade, qui est effectivement un épisode un petit peu à part. Le chant 10 de l'Iliade n'appartient pas à l'Iliade, mais c'est un texte d'Homère quand même. Bon. Il y a une troisième version. Je trouve que Wolf a eu une idée fabuleuse. Il a eu peur lui-même de son idée. Et maintenant, nous commençons à comprendre pour toutes sortes de raisons, et en particulier parce que nous sommes réunis ici au Clio. Nous commençons à comprendre ce qu'il a peut-être voulu dire. Je vais vous lire le texte, parce que c'est quand même trop... Oh, il n'y en a pas loin. Le ticket de métro. Ah, c'est voilà. Il y a des gens qui, je cite verbatiment, sans se soucier de l'ancienneté de l'époque, parlent d'Homère, d'Hésiode et de leurs semblables comme de n'importe quel livre de leur bibliothèque et utilisent le mot écrire sans y penser par un banal tic de style. Bon, la traduction est très moderne, dommage. Il écrivait en latin, bien sûr. Il ajoute « Moi-même, il m'est arrivé de laisser passer le mot pour éviter la gêne d'une répétition, et pourtant je maintiens que ces aèdes étaient des aèdes et non des écrivains. » Comme idée, c'est sûr. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que ce brave, c'est pas n'importe qui, c'était de Hall, enfin, c'est qu'il ait lui-même compris qu'il était piégé par une habitude. Moi-même, il m'est arrivé de laisser passer le mot livre, le mot écrire, pour éviter la gêne d'une répétition. Parce que ce garçon, enfin, ce monsieur, avait été élevé comme nous. Dans l'idée que, pour bien écrire, il faut surtout éviter les répétitions. Vous savez, c'est tout ce qui reste de la rhétorique classique. Dans toutes les maisons d'édition, il y a des gens qui sont là pour lire les manuscrits, pour dire « Ah !» Il y a le même mot deux fois. Entre parenthèses, c'est une... Homère n'avait pas subi cette éducation-là. Il répète les mots d'une manière absolument scandaleuse. Les traducteurs, de temps à autre, arrangent un peu les choses. Bon. Alors, Wolf vous dit... Il n'écrivait pas. Ce ne sont pas des écrivains, ce sont des aides, c'est-à-dire des chanteurs. Alors, évidemment, lui, il veut prouver que, il écrit des pages pour ça, il veut prouver que Homère ignorait l'écriture, donc, vous en tirez les conséquences que vous voulez. Mais quand même, ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin parce que ça veut dire que le texte que nous avons, le texte qu'Homère savait par cœur, n'est pas un texte immuable. Nous avons des livres et nous attendons que les gens qui donnent une voix à ces livres lisent le texte tel qu'il est. Ou bien préviennent qu'il y a des coupures, etc. Pour Homère, probablement, le texte qu'il avait dans la tête, après tout, il avait peut-être écrit, mais ça, on n'en saura jamais rien. Ce texte-là, c'était un réservoir qui servait à ce qu'on appelle maintenant des performances. Je vais vous dire un bout de l'Odyssée, je vais vous dire un bout de l'Iliade. Pourquoi je maintiens le nom d'Homère ? Ça, c'est une autre affaire, j'en reparlerai plus tard, parce que je crois à l'existence d'Homère. Je suis bien obligé de croire à l'existence d'Homère, j'ai dans le même temps écrit un petit livre qui s'appelle Carène, qui est un roman qui raconte l'histoire d'Homère. Alors c'est complètement romancé, hein, c'est inventé. Mais enfin, je ne peux pas maintenant vous dire qu'Homère n'existe pas, ça ne va pas être sérieux. Voilà. Je voulais vous donner un exemple. Alors cette fois, je prends Bérard. Alors c'est un texte que nous verrons après-demain. C'est Tirésias. Tirésias, c'est le devin que Ulysse est allé consulter dans un lieu terrible. Tirésias dit donc à Ulysse, prédit à Ulysse la suite de son voyage. Il lui dit qu'il arrivera dans l'île du Soleil, où le soleil garde des vaches. Il y a des vaches qui appartiennent au soleil. Et alors là, l'erreur absolue, ça serait de tuer les vaches en question. Il en est question dès le début de l'Odyssée. Je ne sais plus si tu as lu le vers. Si, si, tu l'as lu, bien sûr. C'est le 8e, 7e ou 8e vers. Il ne faut surtout pas toucher aux vaches du soleil. Et alors
il ne ramena pas ses gens sans équipage malgré tous ses
efforts. Voilà. Alors, Tinésias.
Leur propre sottise et foutue du soleil avaient mangé les
vaches. Souhaitait rester à ta stade, absolument. Et il lui dit, respecte ces troupeaux, ne songe qu'au retour, et je crois qu'en Ithaque, à travers tous les maux, vous rentrerez encore. Mais je te garantis, si vous les maltraitez, que c'est fini de ton navire et de tes gens. Tu pourrais t'en tirer et revenir, mais quand et dans quelle misère, tous tes hommes perdus sur un vaisseau d'emprunt, et pour trouver encore le malheur au logis, etc. etc. Bon, donc, la prophétie est claire, il ne faut pas toucher aux vaches du soleil. Si vous touchez aux vaches du soleil, après-demain, je vous parlerai de si, parce que tout est là-dedans. Si vous touchez aux vaches du soleil, vous y passez tous, sauf toi. Donc, tous tes compagnons vont périr, et toi, tu rentreras. Bien. Longtemps après, Ulysse est revenu chez Circé. C'est Circé qui l'avait envoyé voir. Circé, la magicienne. Circé l'avait envoyé voir Tirésias dans un lieu terrible. Et alors, Circé dit qu'il faut, bien entendu, qu'ils vont passer à l'île du Soleil et qu'il faut faire attention aux vaches. Voilà. Voilà. Hein. Cette mère Auguste envoyait ses deux filles au rivage lointain de l'île du Trident pour y vivre en gardant les brebis de leur père et ses vaches cornues. Respecte ces troupeaux, ne songe qu'au retour. Et je crois qu'en Ithaque, à travers tous tes maux, vous rentrerez encore, mais je te garantis que si vous maltraitiez ces bêtes, c'est fini du navire et des gens, tu pourrais... Bon, c'est le même texte. Exactement le même texte sur 4 ou 5 vers. Alors, Béra, mais il n'est pas le premier. Hein. Beaucoup de gens ont fait ça avant lui. Ont supprimé ces vers dans le discours de Circé. Ça a été rajouté par un copiste imbécile qui a...
Bérard l'a gardé.
Non, il l'a mis en note. Ah non, il a... Non. Alors ça, non, ça, oui, j'ai oublié de dire ça, ça c'est fondamental. Hein. Et mon excellent collègue, le professeur Aristarque
d'Alexandrie,
et Bérard, et beaucoup d'autres encore, ont une... Un geste, une merveilleuse politesse. Ils ont dit ces vers sont faux, mais ils les ont gardés. Hein? Alors, il y avait une marque sur le manuscrit pour dire le vers n'est pas d'Homère, il faut supprimer le vers. Enfin, bon, c'est les crochets de Bérard, ou la... mais ils les ont gardés. Hein? On en connaît d'autres qui se seraient empressés de faire marcher le correcteur. Hein? Bon, alors. Donc, voilà six vers qui apparaissent dans deux endroits différents. L'éditeur moderne a tendance à se dire, comme on se dit dans un livre, ça fait une répétition, fâcheuse, donc on va les supprimer. Mais entre parenthèses, que supprimer? Les supprimer quand c'est Tirésias qui parle ou quand c'est Circé qui parle? Pourquoi pas? Et comment ça se passe quand on dit le texte? Quand Homère est là, il récite le texte. Alors, peut-être il l'a dit seulement l'histoire de l'épisode de Tirésias. Puis un autre jour, il dit l'épisode de Circé. Peut-être il dit les deux. Mais c'est tellement lointain. Alors, à 10h du matin, il en était à Tirésias. À 2h de l'après-midi, il arrive à Circé. Il prononce les mots. J'ai déjà perdu, ça fait rien.
Vous arriverez à l'île du Trident.
Voilà. Et puis la mémoire enchaîne, et puis il continue. Et puis ça ne trouble personne. C'est ça, la poésie orale. Ça ne se lit pas, ça ne perçoit pas du tout comme ce qui est dans un texte. Parce que vous avez le bouquin à la main, et vous vous dites, j'ai déjà lu ça quelque part, ce type radote. Et c'est vrai, vous le dites. Hein? Lisez le docteur Pascal de Zola, si vous tenez le coup. C'est un peu un coup de barre. Enfin, peu importe, je ne devrais pas dire ça. Il y a un moment où vous vous dites, mais, j'ai déjà vu ça quelque part. Et vous avez raison. Il y a un paragraphe entier qui apparaît deux fois. Manifestement, Zola avait oublié de balancer sa fiche au moment où il a rédigé.
Alors là, vous avez le sentiment que c'est une erreur, mais à l'oral, est-ce que vous avez vraiment le temps? Vous n'allez même pas arrêter Homère pour lui dire
tu l'as déjà dit.
Ça, c'est une chose. Et je crois que les choses se jouent là-dessus. D'une fois sur l'autre, bon, on n'est pas obligé de dire le texte en entier, et d'une fois sur l'autre, on dit les choses différemment. Il y a des choses qui s'ajoutent, il y a des choses qui se suppriment. Vous êtes en train, vous allez voir.
Tout à l'heure, vous l'avez fait, hein, parce que l'on donnait un passage de récit dit, puis après, vous avez appris même, c'est dommage, je n'ai plus en tête, chanter. Et moi, je me suis demandé si c'était volontaire.
Ah, c'était autre chose,
si c'était très volontaire. Bon, c'est parfois un peu.
Écoutez, on va voir après-demain. Je ne sais pas du tout ce que Laëde a prévu. Hein. On va entendre l'histoire de Tirésias. Et puis, pendant qu'il est dans ce lieu affreux, bon, vous avez compris, c'est le lieu des morts. Et pendant qu'il est dans ce lieu affreux, Ulysse rencontre un de ses camarades qui est mort il y a peu de temps avant. Ça, je pense que Bruno va le raconter. Et puis, il raconte, et puis il rencontre sa mère. Ça fait plaisir que Bruno ne le raconte pas. C'est un truc fabuleux. Et puis après, on voit arriver toute une série de dames. Et alors, ça se termine, le chant 11, le chant des morts. C'est dommage. Je vais t'expliquer pourquoi. Ça se termine absolument comme... Je ne sais pas si vous connaissez ce film horrible qui s'appelle La nuit des morts vivants. Hein, où les adversaires, là, les morts vivants, sont dangereux simplement parce qu'ils sont très nombreux. Ils sont absolument... Hein, ils sont pas méchants. Hein. Avec un coup de baguette, on les casse en deux. Et puis, mais ils sont tellement nombreux qu'ils finissent par bouffer les héros du film. Ça termine un peu comme ça. Hein. On les voit tous les morts qui arrivent. Ils sont impalpables, ils n'existent pas. C'est des fantômes, c'est des images, c'est du brouillard, c'est rien. Mais ils sont tellement nombreux que Ulysse dit à ce moment-là la peur.
Et du fond de mes rêves, je vois se rassembler.
Et puis après, il dit la peur verte. Il dit vert. Je n'ai pas vérifié si Bérard avait traduit par vert, mais dans le texte grec, il n'y a pas de problème, c'est la peur verte. Bon, et il se passe. Alors, il y a donc toute une série de dames dont il est question, des dames que vous connaissez. Je prends une petite dizaine, il y a 10 ou 15 vers pour chacune. Alors c'est dommage que Bruno ait tout coupé, parce que... ah tiens, ben voilà. Non, parce que j'imagine très bien, on est en train de dire... on vient de parler de la mère d'Ulysse, et puis alors on voit arriver Tyro, si je ne me trompe pas. Tyro, qu'est-ce qu'elle fait là? Et qu'est-ce qu'elle fait là? Puis après, il y a une question de Léda, et puis Léda, la mère d'Hélène, oui, évidemment. Et puis les questions d'Épicace, c'est-à-dire de Jocaste, donc de l'histoire d'Édipe, c'est amusant. Voilà. Qu'est-ce qu'elles font là, toutes ces bonnes dames? Et je sens le public qui se dit ouais. Enfin, venons-en au fait, enfin, revenons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que c'est que ce défilé de mode de toutes sortes de gens qui n'ont rien à faire ici? Alors là, elle qui sent son public. L'écrivain qui écrit un livre, il sent pas son public. Pas de la même façon. Là, qui sent son public, il dit qu'ils sont en train de s'embêter. Alors, on fait disparaître deux ou trois dames. À mon avis, c'est encore beaucoup plus visible dans l'Iliade, mais ça, c'est une autre affaire, parce que dans l'Iliade, de temps à autre, un de ces messieurs prend la mouche, enfin, il entre en fureur, la fameuse fureur guerrière, et il commence à tuder du Troyen en grande quantité. Et alors, il y a quatre ou cinq vers pour chacun, et alors il se précipita sur un tel qui était fils de un tel, et il lui perça la bedaine, et puis il se précipita sur Truc, qui était fils de Truc, et il lui arracha le foie, et puis il se précipita. Je vais en reparler. Toujours un ensemble de vers complet. Ce qui veut dire que quand Laëde sent que son public on a un peu assez du massacre, il oublie un certain nombre de victimes. Quand il a le sentiment que son public marche et en redemande, il a dans sa besace deux ou trois autres personnages à tuer et à pourfendre et à casser en petits morceaux. Ce qui est fabuleux dans l'Iliade, tel qu'elle nous est arrivée, c'est qu'il n'y a pas deux personnages qui meurent de la même blessure. C'est assez effroyable. Bon.
Une chirurgie un peu bizarre.
Enfin, c'est peu importe. Un texte qui peut être modifié, qui peut être transformé. Finalement, ce que je vous disais sur les variantes, hein, un mot pour un autre, c'est assez rare dans le jeu des manuscrits. Mais ce qui nous apparaît comme étant des ajouts ou ce qui nous apparaît comme étant des coupures, c'est constant. Et on sent que c'est lié à la manière dont les gens disent, dont les gens parlent face à leur public. Ce texte n'est pas un livre, c'est un réservoir pour une narration. Bien, c'est pour ça que, somme toute, on peut raconter les choses un peu dans n'importe quel ordre. Précisément, ça a eu une incidence formidable sur toute l'histoire de la littérature européenne. L'Odyssée commence, comme on le dit en latin, in medias res. In medias res parce que ça a été repéré par un auteur latin, Horace, un peu avant l'an zéro. L'Odyssée commence par un flashback. Ulysse a quitté Troie à cette date-là. Il a fait un voyage. Il est arrivé chez Calypso. Il est resté chez Calypso 7 ans. Et puis, il part de chez Calypso, quand les dieux, comme on vous l'a dit tout à l'heure, en ont pris la décision, et il revient chez lui en passant par chez les Phéaciens. Ça, c'est l'histoire, l'ordre des événements. Mais l'Odyssée vous raconte les choses différemment. L'Odyssée prend, au moment où Ulysse va quitter Calypso, vous donne le récit de ce qui se passe entre chez Calypso et chez les Phéaciens. On est donc, si vous voulez, si les voyages d'Ulysse après la chute de Troie durent 10 ans, on est à la fin de la 10e année. Alors, il y a un récit d'abord, ce que nous avons eu aujourd'hui, Ulysse, parti de chez Calypso, arrive chez les Phéaciens. Puis chez les Phéaciens, il raconte l'histoire en commençant par le début. Après quoi, on va avoir la suture, et on aura la suite où ils règlent leur compte aux prétendants, comme vous savez évidemment. Alors, cette idée d'un début qui n'est pas le début des événements, cette façon de raconter les événements dans un ordre qui n'est pas l'ordre des événements, ça a intéressé un nombre considérable de gens. Toutes sortes de romans à l'époque classique fonctionnent comme ça. Et on imagine même, à la limite, on n'imaginerait pas qu'un roman puisse fonctionner autrement. Il faut toujours un moment où on finit par raconter, par revenir en arrière, par faire un flashback et par raconter ce qui s'est passé avant. Bon, comme vous savez, ça a donné lieu à un genre bien connu qui est le roman policier. Roman policier, on raconte les choses vraies, on les raconte à la fin du roman. Non, c'est une autre affaire. Bien, alors, un texte oral, un texte mouvant, et un texte où la temporalité elle-même est relativement mouvante. On peut la prendre un peu dans tous les sens. Alors là, j'en veux à Bérard, parce qu'il n'a pas tout à fait, traduit le texte tel qu'il est. Au tout début, hein, alors ce que tu as dit, dis-moi l'homme au mille tours, et le 10e vers, donc c'est la fin de l'introduction, juste avant qu'on parle des dieux, elle dit « Dis-moi, déesse, fille de Zeus, dis-nous aussi ces histoires à Moté. » Et les gens disent « à Moté, c'est vrai. Les gens disent « en commençant où tu veux. » À la limite, c'est ce que ça voudrait dire. À la limite, Homère aurait d'emblée suggéré que la temporalité de son récit est une temporalité elle-même mouvante et qu'on peut raconter les événements un peu dans des ordres différents. Ceci étant, quand vous lisez l'Odyssée à la file, dans le texte que nous avons, donc, qui est le produit d'une histoire, et peut-être que Homère ne sera pas d'accord avec tout, ça m'étonnerait. Vous dites que c'est extraordinairement construit.
vous voyez des jeux d'écho, des jeux de rappel, des... c'est fabuleux comme, comme précision dans la construction, il n'y a pas la moindre erreur, et c'est pensé. Alors ça, ça permet de dire autre chose, sur quoi je vais m'arrêter. J'ai commencé en vous rappelant que Homer avait appris son métier d'un autre à Aide, on ne sait pas qui, on n'a rien. Toutes les biographies d'Homer sont du roman, hein, pas seulement la mienne. Il y a des biographies d'Homer dans l'Antiquité qui racontent n'importe quoi. On essaye quand même d'y deviner quelque chose. Mais enfin, Homer est un Aède qui a appris son métier, il y avait des Aèdes avant lui, il en met en scène N'empêche que on a gardé des noms d'Aèdes, d'auteurs d'épopées, on a gardé du tout petit bout de ces épopées, des citations de trois vers, on a gardé un résumé de certaines de ces épopées. Ce qu'on appelle les épopées du cycle, qui racontent l'ensemble de la guerre de Troie. Mises tout ensemble, elles racontent la guerre de Troie au complet. Parce que vous savez, l'Odyssée, c'est l'aventure d'un seul homme, et ça se passe après la guerre de Troie, même s'il y a des allusions à beaucoup d'autres choses, et l'Iliade, ça n'est pas la guerre de Troie. L'Iliade, c'est juste un petit épisode de la guerre de Troie, ça dure quelques jours. Bon. On a gardé donc d'autres récits. Eh bien, tout les auteurs dont nous avons le nom sont postérieurs à Homère. Tous plus jeunes que lui, ils ont travaillé après lui, c'est clair. Ils ont voulu ajouter quelque chose à l'Odyssée. Pourquoi ? Tous ces textes, car les gens qui nous ont gardé les résumés nous ont dit « ça fait tant de vers ». Tous ces textes sont plus courts que l'Iliade. Beaucoup de ces textes sont composites. C'est-à-dire qu'on vous raconte les aventures de machin, puis les aventures de machin, puis les aventures d'un tel, puis les aventures de truc. Bon. Un texte de 1500 vers comme l'Iliade, de 1200 vers comme l'Odyssée, qui... 15 000 vers comme l'Iliade et 12 000 comme l'Odyssée, qui se tient d'un seul morceau, qui vous raconte une histoire en vous là-dedans, jusqu'au bout, quitte à faire des détours, c'est exceptionnel. Et c'est pour ça que je fais partie des gens qui croient à l'existence d'Homère. L'argument que je vous donne n'a absolument rien d'original, beaucoup de gens l'ont soutenu. Il y a dû se passer quelque chose à un moment au 9e, 8e siècle, au milieu de gens qui racontaient effectivement des romances, au sens espagnol, qui racontaient des histoires un peu rapides, un peu brèves, des gens qui savaient faire des catalogues. Hésiode était très fort pour ça. Hésiode. On en reparlera une autre fois. Un autre Aède, dont on a des textes, on considère qu'il est un peu plus jeune qu'Homère, on ne sait pas très bien. Bon, il y avait des tas de gens qui savaient faire des choses, et puis il est apparu un bonhomme qui a eu l'idée invraisemblable de fabriquer un ensemble de 15 000 vers, peut-être un peu moins, j'en sais rien, qui pouvait seulement se raconter en une seule fois. Alors, dans mon idée, alors ça c'est, je vous le livre, c'est complètement gratuit. Hein. Dans mon idée, il s'est passé avec Homère la première fois ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'Homère était en train de raconter une histoire chez un des seigneurs, je ne sais pas, quelque part dans une des villes de l'Asie mineure, et il racontait les aventures d'Ulysse. Et puis il est arrivé au moment où Ulysse va se révéler chez les Phéaciens, il a dit, il est tard. On pourrait peut-être s'arrêter là. On recommence demain. Ils ont dit oui, mais ils n'avaient jamais entendu ça. Enfin, il a inventé le film à épisode, si vous voulez, mais avec une construction telle que très peu de films à épisode la possèdent. Voilà, il y a une idée, il y a un os chez ce bonhomme qui a vu les villes de beaucoup d'hommes et qui a connu leur esprit. Prolo d'anthropon, idem d'aster, kai noam egno. Vous avez entendu ?
pom 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 pata pom pata pom pom pata pom.
Bon, ça c'est pour nous.
Merci. Alors, on a peut-être une minute pour, si vous avez des questions à poser. Enfin, ceci étant,
je vous en prie.
Je crois qu'il y a un faux pas. Parce que dans Homer, il y a une moralité. Et la moralité dit qu'il n'y a pas de mort anonyme. Donc, ce que vous disiez sur la généalogie, là, il y a, c'est une grande question. Parce qu'il n'y a pas de mort anonyme. Ce qui meurt, à une paire, toute une lignée de zéros derrière lui. Donc, quand quelqu'un.
Je ne comprends pas du tout votre question.
Vous avez dit qu'il y a des morts, les films américains, les morts qui sont anonymes, une masse. Ce n'est pas une masse, il y a des noms.
Non,
il y a,
raison.
Il y a toute une lignée, toute une généalogie.
Il s'agit de la dernier vers du chant 11. À ce moment-là, Ulysse voit arriver une foule et il ne se pose pas la question de savoir qui est son grand-père.
Mais avant, la généalogie avait une raison d'être là-bas.
Évidemment, c'est fondamental, la généalogie.
Ce qui meurt à Eliade, il y a quelqu'un, il n'y a pas de mort anonyme.
Ça nous semble tout à fait
d'accord. Voilà. Dans les exemples, le thème, l'architecture, la révolution, les bâtiments.
J'ai parlé de la règle d'or, moi.
Non, mais je t'en parle.
Oui, ah, mais d'accord, oui.
Donc, c'est moi, je suis là, savoir.
Il y a peut-être une règle d'or dans la construction des textes, mais elle n'est pas encore.
Oui, je vous parlais de parler
à la construction des textes. Non, non, je parlais, si vous voulez, de la construction des textes, autant au sens où Aristote l'emploie.
Mais ce n'est pas une construction matérielle.
Non, c'est une construction, c'est-à-dire. La réflexion sur l'ordre dans lequel les événements sont racontés et sur la façon dont les événements s'enchaînent l'un l'autre. C'est pour ça, alors, c'est beaucoup plus visible encore dans l'Iliade, et c'est pour ça que Aristote a fait de l'Iliade le modèle de toute espèce de narration, et ça vaut encore. Bon, pour ce qui est l'histoire de la règle d'or, ça m'amuse parce que j'ai des idées là-dessus, mais je préfère les garder. On en parlera en privé si vous voulez.
Je ne pensais pas justement que ça a été écrit par Homère, puisque en fait, il n'y a pas d'écrit pour que ce soit si parfait, si, avec tant de correspondances, tant de symétrie, si belle architecture. Est-ce qu'on n'a pas besoin quand même de l'écrit pour arriver à ça ?
Alors, vous savez, la question a beaucoup, beaucoup évolué. D'une part, depuis qu'un Américain quasi génial, Lehman Parry, qui est mort très jeune malheureusement, a étudié la pratique des chanteurs dans les montagnes de Stéphane et Yougoslavie. Vous avez des choses admirables dans ce roman de bon Dieu. Ismaël Kadaré.
Le dossier H.
Ismaël Kadaré, qui parle alors lui des chanteurs d'Albanie. Enfin, on a beaucoup étudié la pratique réelle des chanteurs populaires. Et alors, on a maintenant une idée de la mémoire et de la possibilité de la mémoire qui est très, très différente de l'idée que pouvait s'en faire nos arrière-grands-pères. Nous n'avons pas de mémoire parce que nous avons l'habitude de bouffier, il y a des bouquins, il y a des CD.
D'écrire dans son esprit.
Et c'est une question qui a intéressé.
Non, c'est plus précis en ce qui concerne les Grecs.
C'est une question.
Structurer son
cerveau. Oui, parce que c'est. Non, mais simplement, l'histoire de la mémoire, c'est une question qui a intéressé beaucoup de gens, et notamment les théologiens. Parce que la question de la transmission d'un texte, elle se pose évidemment à propos du texte biblique. À partir du moment où on a osé dire que ce texte avait pu. Les manuscrits ne sont pas tous d'accord, la question de la transmission a été formidable. Et notamment la question de la transmission des paroles du Christ entre l'époque de sa mort, vers 30, et puis l'époque de la rédaction écrite des premiers évangiles qu'on date de 30 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et
il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, fait des expériences, et de fait, il y a des civilisations verbomotrices, comme on dit, où les gens pratiquent une mémoire absolument, absolument extraordinaire. Donc, ceci étant, peut-être que c'est utilisé, c'est pas impossible. Moi, je crois pas, mais c'est complètement...
Ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a aucune idée déjà à qui ils s'adressaient, et eux-mêmes, comment ils étaient cultivés au sens cultivés.
Alors là, il y a une chose qui est tout de même assez claire. Regarde les deux Aed qu'on voit dans l'Odyssée. Il y a l'Aed qui est à Ithaque et l'Aed que tu as mis en scène tout à l'heure. Ils ont un public de nobles, de seigneurs. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, effectivement, la généalogie est si importante. Les anciens étaient persuadés que Homère parlait à des gens qui reconnaissaient leurs ancêtres. Alors, même si l'ancêtre avait été pourfendu par Achille et vilainement pourfendu, c'était quand même quelque chose d'avoir été de descendre de Camérus.
Tu as dit tout à l'heure que Homère, on a évidemment rien sur Homère, mais sauf lui-même. Et lorsqu'il fait parler des Aèdes, il se décrit lui-même.
C'est probable. C'est probable.
Et pour Ephébios, il fait dire à Ephébios, tu te souviens, je n'ai pas eu de maître, un dieu dicte mon chant, je saurais désormais te chanter comme un dieu, résiste.
Oui, mais alors ça c'est autre chose, c'est tout à fait autre chose, et c'est. Là, nous avons beaucoup de mal à comprendre. Mais manifestement, dans ces textes-là, quand quelqu'un a un talent, un vrai talent, travaille bien, quel que soit le travail, il y a un Dieu derrière. Alors, on est ahuri quand on lit le texte, là. Ils sont tous qualifiés de divins. La divine Achille, ça va, sa mère est une déesse, tout le monde est d'accord. Puis il sait se battre.
Et le porcher aussi est divin.
Les artisans. Tenez, bon, on va peut-être arrêter là-dessus, parce qu'il serait temps. Héphaïstos est Dieu. Et il boite. Il est bétourné. Mais c'est un Dieu extraordinaire. Parce que c'est le maître de tous les métiers. Notamment des métiers du feu. Alors, vous savez ce que c'est que le forgeron dans certaines sociétés traditionnelles. Et alors, la fameuse histoire rigolote que Démodocos et Homère et Bruno ont dit, puisque c'est le même, pas mal, cette fameuse histoire rigolote, on la comprend de travers. Parce que nous la lisons à travers Molière. C'est pas une histoire de cocu. C'est pas dans Bocas. Le vainqueur dans cette histoire, c'est Héphaïstos. Et Arès, l'amant, celui qui a cocufié Héphaïstos, s'en va. Il est grotesque. Et c'est de lui qu'on rit. Les dieux se rigolent comme des malheureux, ils se rigolent d'un rire homérique. Il y a d'autres apparences de rire homérique. Ils rient parce que Arès et Aphrodite sont dans une situation ridicule. Ils sont dans une situation ridicule parce que Héphaïstos a un art absolument fabuleux. Il a construit ce piège invisible et qui fonctionne parfaitement. Et l'Aède est aussi évidemment un artisan.
Mais il y a aussi le fait peut-être que c'est Poséidon qui... Il n'est pas question de se moquer de Poséidon.
Ah, c'est un peu...
C'est dangereux, ça.
C'est quand même assez dangereux. Non, Poséidon intervient. Ça c'est aussi peut-être très merveilleusement grec. Il intervient pour quel but? Parce qu'effectivement, Héphaïstos est en fureur. Il a été outragé, humilié. Les choses se mêlent. Il a été volé parce que pour épouser une femme, il faut donner de l'argent. Dans cette société-là, c'est C'est comme ça que ça se passe. C'est pas les femmes qui ont des dos, c'est les gens qui s'achètent une femme avec... Ça peut coûter 1000 vaches, une femme. Bon. Alors, Héphaïstos dit, mais vous l'avez entendu, Héphaïstos dit...
Non, justement, j'ai oublié la verbe, parce que Poséidon dit « Lâche-le, sur mon ordre, il paiera tous les frais que tu demanderas, je m'emporterai
voilà. devant les immortels. » Alors, Héphaïstos...
Dans ce cas-là, je ne peux ni le veux, douter de ta parole.
Héphaïstos demande une compensation en argent, parce qu'on va négocier. Ça c'est le grand mot dans cette société-là. On va négocier, et effectivement, Poséidon se porte garant pour Arès, donc on va pouvoir calmer les choses. Là, l'immense problème de l'Iliade, ça, on aura l'occasion d'ailleurs de le dire, c'est que, précisément, on n'arrive pas à négocier. Il y a des tas de gens qui sont tout prêts à négocier. Il n'y a rien à faire. Et ça se termine, comme vous savez. Et d'une certaine façon, il y a quelque chose comme ça dans... à la fin de l'Odyssée. Parmi les prétendants, il y en a qui... On pourrait arranger les choses. Hein. Marche pas. C'est pour ça que c'est tragique.
Un autre regard, je suis très sensible, moi, à la poésie rurale donc, qui se dégage dans ce texte, et que vous avez lu, à un moment donné, il... trouve sa couche sur un lit de feuilles, etc., sous un olivier, et l'olivier, il y a un olivier franc et un olivier greffé, enfin, donc sur le même tronc. Quel symbolisme il y a derrière ça? Qu'est-ce que vous nous en dire?
Là, voilà le type de question que je ne peux vraiment pas répondre.
Vous savez la question, vous n'avez pas répondu.
Non, mais je vous ai prévenu. Ça, c'est une question immense et qui me dérange.
On pourrait parler, mais
oui, bien sûr. Voilà.
Bien sûr.
Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Quels sont les mots que vous auriez voulu entendre?
Kai, non, egno. Kai non egno. Et il a connu leur esprit. Ceci étant, je ne voudrais pas avoir à traduire l'Odyssée parce que je ne sais pas comment traduire ça proprement. Il a connu leur esprit. Il a connu l'esprit des gens. Là, maintenant, on parlerait de psychologie.
Oui.
Il connaît la psychologie des peuples. Il sait ce que les gens ont dans la tête. En même temps, ça ne marche pas parce que pour Homère, la pensée ne se pose pas dans la tête. Dans tout ce passe-là. Mais il a connu leur esprit. Ce non egno, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est Hérodote après. Hérodote qui s'est promené d'un bout à l'autre de ce qu'il estimait être le monde et qui a posé des questions aux gens.
Il faut que nous arrêtions.
Oui.
Beaucoup, Jean-Louis.